les nouveaux aventuriers, itinérance aux quatre coins de la France, c'est parti pour l'aventure. Avec mon vélo et mon micro, je parcours la France à la rencontre des héros de nos territoires. Ces femmes et ces hommes sont artisans, paysans, restaurateurs ou encore chefs d'entreprise et façonnent le monde de demain. Dans chaque épisode, un invité me raconte son parcours, son savoir-faire, son quotidien, ses doutes, ses joies ou encore ses conseils. À travers cette série de conversations, ce podcast met en lumière les meilleures pratiques du présent et celles et ceux qui les incarnent. Dans cet épisode, je pose mon micro à Arinto, en région Bourgogne-Franche-Comté, à la rencontre de Bruno Thomas, artisan du bois dans le Jura. Celui que l'on surnomme Bête à bois a un jour décidé de quitter Paris et de s'installer dans cette région boisée pour travailler cette matière, symbole du massif jurassien. Avec Bruno, on aborde son parcours et son installation dans la région, ou encore son intérêt pour les jouets en bois, vecteur de coopération et de liens intergénérationnels. L'apprentissage devrait systématiquement être un jeu, une conversation enregistrée dans l'atelier de Bruno, situé dans le village d'Arinto, et un reportage photo à retrouver sur le site internet du podcast Les Nouveaux Aventuriers. Attachez vos ceintures, c'est parti pour l'aventure. Bonjour Bruno.
Bonjour François.
Un grand merci de nous ouvrir les portes de ton atelier aujourd'hui. On est à Arintode, un petit village du Jura. Et c'est ici que tu t'es installé il y a quelques années en tant qu'artisan pour travailler sur une matière vivante, un symbole du massif du Jura, le bois. Avant de parler de cette matière, de ton savoir-faire, de ton entreprise Bête à bois, pourrais-tu, pour ouvrir ce podcast, me raconter une aventure que tu as vécue et qui t'a particulièrement marqué ?
Bah écoute, oui, avec plaisir. Une aventure qui m'a vraiment marqué dans mon histoire à travers le bois et maintenant, dorénavant, à travers les jeux essentiellement. C'est une animation qui a été faite au niveau d'un groupe scolaire juste à côté, à Orgelais. Donc d'ailleurs, c'est pas Arintode, mais Arinto.
Arinto.
on prononce pas le D. Ouais. Donc c'est pas très loin et où, sur une journée, j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire jouer 200 enfants en simultané. Donc la veille, ils avaient fait des ateliers philosophiques avec l'équipe pédagogique sur la notion de coopération, d'entraide. Donc ils avaient pu en parler et puis évoquer un petit peu le sujet. Et où le lendemain, donc, du coup, sur une période de 8 heures, on a scindé en fait en 20 groupes de 10 enfants qui étaient mixés entre le CP et le CM2.
Ouais.
Et où les enfants ont pu jouer, bah là c'était sur un stade, notamment en extérieur, c'est encore plus pertinent, où j'avais demandé aux équipes pédagogiques de prendre justement un petit peu du recul et de laisser les enfants en autonomie, et que bah, ces équipes ont aussi le droit de se reposer et d'observer ce qui se passe. J'avais des doutes sur le fait que les enfants puissent jouer pendant 8 heures comme ça. Je m'étais dit l'après-midi, après le pique-nique, il risque d'y avoir une forme de lassitude, ce qui n'a pas été le cas. Les enfants jouaient, on redemandait encore après. Et vraiment, ce qui a été appréciable, c'est que les jeux coopératifs induisent quand même, malgré tout, vraiment une notion d'écoute, de calme. C'est-à-dire, c'est une journée sur laquelle on n'a eu absolument aucune problématique. Ouais. Et où vraiment, les enfants ont pu, en termes de motricité, essayer la totalité des jeux. Et du coup, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très fort, parce que là-dessus, j'ai pu déposer 200 petites graines de coopération. Et je trouve que dans cette société, bah, c'est vraiment quelque chose de fondamental.
La saison 2 du podcast Les Nouveaux Aventuriers donne la parole aux héros de notre territoire, celles et ceux qui incarnent et défendent les savoir-faire. Alors pour commencer, je te propose de me parler de ta vie d'avant, puisque tu n'as pas toujours été artisan. Pourrais-tu me dire où tu as grandi, ce que tu as fait comme études et quelles ont été tes premières expériences professionnelles ?
Alors je suis né tout simplement en région parisienne, à Argenteuil, banlieue parisienne nord, dans lequel j'ai eu une très belle vie. Hein. Et du coup, j'ai été porté par les études à se dire, on est dans un système éducatif qui demande assez rapidement qu'on sache exactement ce qu'on veut faire. Il s'avérait que moi, dès le début, je ne savais pas ce que je voulais faire.
Ouais.
Donc j'ai fait des études d'abord au niveau du monde de l'entreprise, dans la gestion de production, dans la qualité, dans l'environnement, tout ce qui était lié aux normes ISO 9000 et 14000. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment pas quelque chose qui me plaisait. De plus, j'arrivais pas à visualiser ma vie avec des enfants en région parisienne.
Ouais.
Tout le stress inhérent toute cette suractivité, tout ce rythme effréné. J'avais pas envie d'élever des enfants dans ce cadre-là. Donc, du coup, j'ai démissionné, je suis parti dans le Jura, où là, j'ai été perchman. C'est-à-dire déjà, c'était le sport qui m'attirait. Donc, j'ai pu faire pas mal de ski, de surf pendant une petite période. Derrière, j'ai continué ma démarche. Bah, qu'est-ce que t'as envie? Donc, j'ai refait d'autres formations, alors que ça soit dans le développement local, pour être chargé de développement local dans les communautés de communes. J'ai été auxiliaire de puériculture, j'ai été agent de sécurité. J'ai fait plein de métiers, toujours en me disant, voilà, j'avance. Parce que de toute façon, il faut gagner sa vie. Par contre, à chaque fois, ça me donne des critères supplémentaires de ça, j'en ai plus envie. Ça, j'en veux pas et ça me fait avancer vers d'autres métiers. Et un jour, je me suis rendu compte aussi, en voulant m'installer, que le coût pour payer des artisans était relativement élevé, juste, mais relativement élevé. Et tous ces métiers intellectuels que j'avais faits, je me suis dit, j'ai envie de travailler la matière, j'ai envie de savoir me servir de mes mains. Ce qui n'était mais alors vraiment pas du tout le cas au préalable. Et du coup, j'ai commencé à faire le métier de charpentier.
Oui. Et comment est ton intérêt justement pour cette matière vivante, ouais, le bois?
Alors le bois, c'est essentiellement venu à travers l'éducation populaire, dans lequel tout ça en fil conducteur dans ma vie. J'ai été animateur, puis formateur, puis directeur, au niveau essentiellement de la petite enfance. Et j'ai développé quelque chose qui me tenait à cœur, qui était toute l'éducation à l'environnement.
Oui.
Et où du coup, je me suis souvent retrouvé avec des groupes d'enfants dans les bois, dans les forêts. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à écouter un petit peu la nature, déjà la découvrir. C'est-à-dire qu'en région parisienne, mine de rien, je la connaissais pas particulièrement. Et le fait de pouvoir partir dans des centres dans lesquels il y avait des forêts, j'ai commencé un petit peu à y faire attention. Et puis après, c'est vrai qu'en arrivant dans le Jura, c'est quand même une terre verte, particulièrement arborée. Et là où, pareil, je rencontre mon amoureuse, qui est du coin, et qui, elle, a ses racines bien ancrées dans la terre, et où du coup, je découvre, en fait, des fruits et des légumes, il y en a plein, des diversités de goûts, il y en a plein, et tout ça, je ne le savais pas.
Et comment tu as fait justement ce choix, déjà de quitter Paris? Est-ce que c'était compliqué? J'ai l'impression que non. Et pourquoi aussi avoir choisi le Jura comme nouvelle terre d'adoption dans ta nouvelle vie finalement?
Alors Paris, donc je travaillais à la Défense, c'était dans cette fourmilière humaine,
ouais.
Où prendre le RER le matin, le midi on est en pause, mais il y a du monde partout pareil, et où du coup ça me convenait pas particulièrement, et c'est un voyage en Côte d'Ivoire, où on va se rendre compte un petit peu de ce qui se passe à l'extérieur,
ouais.
Et où du coup ça a été un des facteurs qui a dit change de vie. Donc compliqué, pas particulièrement, parce que c'était viscéral.
Oui.
Et ensuite le Jura, tout simplement parce que du coup, pour partir de région parisienne, j'envoie 250 CV dans les structures de ski, et c'est les premiers qui me répondent. Et où, du coup, j'ai décidé de faire le pas comme ça.
Alors avant de parler de ce que tu fais concrètement ici, comment s'est déroulée ton installation? La transition justement entre Paris et la campagne, parce que pour le coup ici on est en pleine verdure, comme tu viens de le dire. L'accueil des habitants aussi, comment s'est passée ton installation dans le Jura?
Mon installation, je dirais personnelle, s'est bien passée. Après, il faut savoir qu'on est quand même assez facilement perçu comme, entre guillemets, des étrangers quand on arrive dans ces secteurs-là, donc c'est pas forcément évident. Mais globalement, au fil des années, l'accueil est bon, les rapports sont sincères. Et surtout, il y a une richesse vraiment humaine. C'est-à-dire, on est dans des territoires qui ne sont pas énormément peuplés.
Oui.
Mais par contre, des familles qui ont des belles valeurs liées à leur éducation, liées à leur mode de vie, il y en a plein ici. Donc, il y a des réseaux qui sont absolument exceptionnels. Je ne partirai plus du Jura. Déjà, j'aime cette terre du Jura. Mais c'est surtout qu'humainement, le réseau maintenant qui est construit, je ne veux plus le quitter, quoi.
Alors le Jura et le bois, on va parler justement du bois, c'est une longue histoire d'amour. Qu'est-ce qui fait la réputation de cette région pour cette matière?
Alors le Jura, oui, c'est vraiment culturel. Déjà, le bois est là, donc il n'y a pas de distance, il n'y a pas de transport. C'est vraiment une des régions les plus vertes de France, avec notamment les Vosges et les Pyrénées. Culturellement, ici, le bois était utilisé parce qu'il y en avait, et il y avait essentiellement aussi une occupation hivernale. C'est-à-dire que les gens L'hiver se retrouvait notamment avec toute l'activité de tournerie autour des rivières. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait l'électricité, on était sur la force de l'eau pour faire marcher les tours à bois. Et beaucoup de gens se sont mis à tourner ici. Donc c'est pour ça que le Jura a été connu pour ses quilles, pour ses cordes à sauter, pour ses tringles à rideaux, pour la robinetterie aussi par exemple, où il y a eu beaucoup le buis, qui est un bois très présent dans le Jura, qui a été utilisé pour tout ça.
Alors au village d'Arinto, on t'appelle Bête à bois, qui est aussi le nom de ta société. Alors d'où vient ce nom et quels objets fabriques-tu ici? Il y aura un reportage photo d'ailleurs qui permettra d'un peu de s'imprégner de ton univers.
Alors Bête à bois, au début j'avais appelé mon entreprise Bêta, Alpha Bêta, Bête à bois, je ne sais pas exactement pourquoi. Et c'est en allant à un copain qui est scieur, qui a une scierie à Arinto, qui s'appelle Eric Bertaille, qui à chaque fois que je venais me disait « Tiens, voilà la bête à bois !» Et où du coup, j'ai trouvé ça assez sympa. Ouais. Et surtout, ça donnait un petit peu de sens. Et vu que ça devenait mon nom utilisé dans le coin, j'ai mis cette désignation commerciale au niveau de l'entreprise.
Alors au niveau des objets que tu fabriques, donc c'est essentiellement aujourd'hui des jouets. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu sur quel bois aussi tu travailles et qu'est-ce que tu fabriques avec tes mains dans ton atelier?
Alors j'ai commencé un petit peu par la menuiserie traditionnelle. Il y a vraiment une forte demande ici, d'autant plus qu'il y a de moins en moins d'artisans, ce qui est même quelque chose qui devient un petit peu problématique dans nos régions.
Ouais.
Et c'est à partir de 2015 où il m'arrive une aventure personnelle qui fait que vraiment je décide de passer sur ce qui a le plus de sens pour moi, à savoir la motricité et la coopération à travers les jeux. Sachant que j'ai aussi deux petites pépettes qui maintenant ont 11 ans et 10 ans.
Ouais.
Et ça a été les plus grandes utilisatrices de mes jeux. Dès qu'il y a un jeu qui sort, elles l'essayent. Et je me suis rendu compte qu'il y a vraiment une capacité à développer une motricité qui est vraiment très bonne, quoi. Je vois, on a deux petites pépettes qui sont d'une agilité exceptionnelle, quoi.
Et les jeux en bois dans le Jura, c'est un savoir-faire plutôt répandu, mais toi tu cultives ta singularité en réalisant des jeux collectifs et coopératifs, donc tu as commencé à en parler, qui éveille les sens même. En quoi justement c'est vraiment important pour toi cette notion d'éveiller les sens à travers ces jeux coopératifs et collectifs?
Alors comme je l'expliquais tout à l'heure, j'ai commencé par des métiers essentiellement intellectuels,
ouais.
Et à un moment je me suis mis au manuel. Il faut savoir que c'est long et que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment, et notamment à travers la menuiserie, une notion de geste. C'est-à-dire dans la menuiserie, on n'a pas des gestes mous, on a des vrais gestes francs qui doivent être pertinents parce qu'on utilise des machines qui sont particulièrement dangereuses. Et où du coup, je me suis rendu compte que ce geste était vraiment intéressant à développer et que l'artisanat, que je considère comme un métier noble, c'était autant pouvoir développer dès qu'on pouvait, dès le plus jeune âge, des gestes fiables, de manière à derrière, dans sa vie d'adulte, pouvoir soit, en termes de passion et de loisir, pouvoir travailler la matière, soit tout simplement en faire son métier.
Sur ton site internet, on peut lire la phrase suivante: « On n'arrête pas de jouer parce qu'on vieillit, on vieillit parce qu'on arrête de jouer ». Je trouvais que c'était une phrase hyper intéressante. Et tu montres aussi, d'une part, que les jeux en bois sont inclusifs, mais ils sont aussi intergénérationnels. Et j'imagine que tu as de beaux exemples ou de belles anecdotes sur le sujet.
Dans toutes les relations humaines, pour moi, ce qui va être important, en fait, c'est le partage. C'est-à-dire qu'une relation va s'entretenir, va évoluer. Et pour moi, c'est vraiment quand on fait les choses ensemble, quand on vit un moment, une rigolade, un moment de plaisir ensemble, on va s'en rappeler et ça va nous marquer et ça va surtout construire notre histoire à tous les deux, ou à tous les trois, ou à tous les quatre. Enfin, toujours est-il à plusieurs. Un de mes grands plaisirs, c'est de voir un grand-père jouer avec son petit-fils. C'est-à-dire, c'est à un moment, il faut des outils. Alors là, ça passe à travers le jeu, mais pour pouvoir partager. Et quand on a cette différence d'âge, c'est pas tout le temps évident. Et je me suis rendu compte en le faisant que le jeu en soi était vraiment un des vecteurs privilégiés, ouais, et pertinents pour créer du lien.
Et justement, aujourd'hui, où est-ce qu'on peut retrouver tes jeux, avec qui tu travailles? Je crois que tu me disais que tu travailles beaucoup avec les écoles, tu as commencé aussi à en parler tout à l'heure. Où est-ce qu'on peut retrouver ton univers Bête à bois aujourd'hui?
Alors, je travaille en partie avec les écoles, mais pas encore assez.
Ouais.
C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose qui est dans ma ligne de mire, qui est une démarche engagée de pouvoir participer à la motricité de nos enfants au niveau des écoles. Les jeux, bah, on va les retrouver sur certaines structures touristiques. Mmh. Donc là, ça fait déjà quelques années que je travaille notamment avec le château de Guédelon, ouais. sur lequel ils ont mis donc en place des ateliers jeux vraiment avec une forme d'autonomie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle du jeu. Il suffit d'observer, de croire en soi et de pouvoir imaginer ce qu'on peut faire avec ces choses-là. Et je demande notamment aux équipes pédagogiques qui vont encadrer de pas forcément être en train de jouer avec les enfants, mais plutôt de prendre du recul et d'observer les enfants. Et pour moi, la démarche, elle est plus d'aller accompagner ceux qui vont être dans une position délicate, alors que ça soit d'un point de vue moteur. On peut identifier, par exemple, des difficultés motrices. Mais aller s'occuper aujourd'hui juste du petit bonhomme qui va pas bien ou de la petite pépette qui est malheureuse et de réussir à prendre ce temps-là où c'est difficile pour une équipe pédagogique, pour une institutrice et les autres encadrants de pouvoir faire attention à tout le monde. Bah là, on profite du fait qu'on en est 25 qui jouent en autonomie pour s'occuper des deux qui ont un petit coup de mou, quoi.
Mmh. Ouais, c'est super intéressant de voir que finalement tu donnes du sens à ton savoir-faire en incluant justement aussi toutes ces personnes-là, les enfants, les grands-parents, les adultes, de manière générale. Moi, je trouve que c'est une démarche qui est hyper intéressante et qui permet aussi d'inclure finalement une dimension sociale et aussi environnementale dans ton savoir-faire. Quelles essences de bois tu utilises aussi ? Parce qu'aujourd'hui, il existe plein de types de bois différents. Sur quel bois tu travailles, toi, essentiellement, ici ?
Alors, je travaille uniquement avec des bois jurassiens.
Oui, d'accord.
Nos anciens avaient vraiment cette habitude d'utiliser les pièces de bois valables, notamment pour de l'ameublement, pour de la charpente ou autre, c'était stocké dans les granges. Aujourd'hui, la société va de plus en plus vite. On ne respecte pas forcément la nature. Enfin, là, on peut parler par exemple de l'aspect luné des bois, c'est-à-dire que des arbres ne vont pas se couper et s'abattre à n'importe quel moment. Mmh. Déjà, s'il y a la possibilité de ne pas les abattre, c'est bien. Mais y a des moments où les arbres ils sont en montée de sève, par exemple, et où du coup, les couper à ce moment-là, ce n'est pas du tout pertinent. Mmh. On ne va pas avoir un bois de qualité. Donc je pars aussi du fait que honorer l'arbre, respecter l'arbre, c'est faire les choses bien, comme le faisaient nos anciens. Donc ça sous-entend qu'on prend le temps et surtout qu'on fait les choses au bon moment. En termes d'essence ici, y a une vraie richesse et une vraie diversité. Donc il peut y avoir des noyers. Par exemple, j'ai récupéré des beaux noyers qui ont eu notamment en 2008 et 2013 des stress hydriques, ouais. C'est-à-dire il a fait trop chaud. Et 2 à 3 ans après, les arbres meurent. Donc c'est des arbres qui sèchent sur pied. Donc c'est des arbres que je récupère. On va retrouver dans nos forêts des chênes. On va retrouver des frênes qui actuellement sont un peu en péril. Il y a des maladies sur les frênes. Mmh. On va retrouver du hêtre, qu'on appelle aussi le feuillard, qui part facilement en bois de chauffage, mais il faut savoir que c'est un bois aussi qui peut être utilisé, par exemple pour l'alimentaire, si vous faites des planches à découper ou des plans de travail, le hêtre est particulièrement propice, mais comme le frêne, c'est des bois alimentaires. Si vous voulez faire un billot de boucher ou un pétrin de boulanger, c'est des bois qu'on va utiliser. Vous allez retrouver, alors au niveau des conifères, vous allez retrouver des épicéas, mais dans le Jura, en ce moment, nos épicéas sont en grand péril. Il y a ce qu'on appelle le bostriche, qui les attaque. Donc, c'est une petite bestiole qui est à l'intérieur et on a nos forêts, je dirais plutôt nos plantations. C'est-à-dire que c'est facile pour une petite bestiole de passer de l'un à l'autre. Ils sont tous à côté et en ligne. Mm-hmm. Mais du coup, c'est des arbres sur lesquels on va avoir une réelle problématique. Dans les conifères, on va retrouver par exemple du mélèze, qui est un bois rouge qui pousse pas mal dans le haut Jura. Et puis on va en retrouver ici aussi en petite montagne jurassienne. C'est un bois qui est vraiment adapté à l'extérieur, par exemple. C'est des bois qu'on va retrouver sur les bardages des maisons. On va retrouver un petit peu d'acacia, mais surtout en Bresse, juste à côté d'ici. Nous, nos acacias sont un petit peu tordus, mais j'adore les arbres tordus, c'est pas grave. Et après, moi, ce que j'adore aussi dans les bois, c'est vraiment cette diversité de couleurs. C'est-à-dire, on va avoir le chêne un peu marron, le frêne, le hêtre, plutôt blanc, crème, beaucoup plus clair. On va retrouver donc le mélèze rouge, on va retrouver l'acacia jaune. Mmh. Et du coup, ça permet de panacher, notamment pour moi, les jeux, et d'offrir des couleurs sans teinte, sans vernis, où je garde les bois naturels, de toute façon.
Alors, beaucoup de personnes associent l'artisanat à une forme de solitude. Est-ce que c'est un point de vue que tu partages, toi, en tant qu'artisan, justement ?
Alors, solitude, je dirais qu'il y a différents niveaux à tout ça. C'est un métier où à chaque fois on est sur le projet, je partage énormément avec les personnes avec lesquelles je travaille, notamment vraiment du début du projet à la fin, où je vais envoyer des photos, on va s'appeler pour savoir si ça correspond, si ça leur plaît, s'ils ont des idées, où souvent on me laisse en plus une forme de créativité, donc j'explique à chaque fois où j'en suis, de manière à ce qu'eux puissent me suivre et valider les différentes étapes. Là, je suis dans un atelier où, en plus, il y a assez facilement du monde qui passe. Donc,
on l'a vu ce matin, oui.
Donc, non, forme de solitude à ce niveau-là, non. Par contre, il y a une forme de solitude, mais qui est plutôt agréable, qui est liée à l'immersion totale dans mon atelier. C'est-à-dire, quand j'y suis, je m'immerge dans mon projet. Et en effet, je suis tout seul. C'est-à-dire que la créativité, le travail concret dans la matière à réaliser, je le fais tout seul, sauf sur des fois des gros projets qui sont un peu trop vastes pour moi, auquel cas je demande à des amis, alors menuisiers ou des travailleurs du bois, de venir m'aider. Donc c'est plutôt diversifié à ce niveau-là.
Échanges-tu justement régulièrement avec d'autres artisans dans la région ? Tu disais que tout à l'heure, c'était aussi un métier en perdition. Et on m'a notamment parlé de Robert Marichy, apparemment une figure locale.
Alors oui, il y a une solidarité entre artisans du bois, ce qui est superbe. Robert Marichy, je le connais parce que je l'ai croisé. On n'a pas plus échangé de ça. Après, vraiment des compétences magnifiques, une durée notamment dans sa passion au niveau du tour qui est vraiment remarquable et exceptionnelle. C'est un honneur de voir une personne comme ça travailler à cet âge-là. C'est quelque chose que j'envie. Après, au niveau des acteurs du bois dans le coin, c'est toute une filière, en fait. C'est-à-dire que, on en parlait tout à l'heure sur le respect des bois, il va falloir des personnes qui savent abattre correctement les arbres quand c'est nécessaire et quand de toute façon les arbres vont être abattus. On parlait des lunages, mais derrière, une fois que l'arbre est abattu, il va falloir des personnes qui vont nous scier correctement les bois. Donc ça, c'est encore un corps de métier. Donc il y a des scieries dans le coin, mais sachant que petit à petit, les scieries ferment. Donc on met en place ce qu'on appelle des scieries mobiles, c'est-à-dire des scies qui sont derrière les véhicules et qui se déplacent où sont les troncs. Donc ça, pareil, c'est des copains maintenant qui font ça. Voilà, ensuite, c'est des copains et copines. Je pense notamment à Charlotte et Ben Création, qui est menuisier dans le coin, où elle, par exemple, elle a une superbe formation en menuiserie et ébénisterie que je n'ai pas. Et auquel cas, c'est bien d'apprendre sur le tas, mais à un moment, il faut aussi pouvoir avoir des personnes référentes quand on a besoin de conseils d'un point de vue technique.
Alors, lors du premier épisode de la saison 2 du podcast, j'ai échangé avec Franck, un vigneron à Pujol, avec une production en biodynamie. Il me disait qu'il avait parfois du mal à appréhender la dimension astrale de la biodynamie. Et j'ai lu que toi, tu sciais le bois selon la lune. Alors, pourrais-tu m'expliquer en quoi cela consiste et pourquoi avoir fait ce choix ?
Le bois est un être vivant, déjà. C'est lui qui nous indique vraiment la verticalité des choses. Donc, comme tous les êtres vivants, en fait, ils réagissent au rythme lunaire. Et donc, il faut savoir que quand un arbre, par exemple, va faire une montée de sève, il y a une forme de pression pour faire monter tout ça, pour développer ses feuilles, ses petits bourgeons. Et où, du coup, il y a vraiment des moments où l'arbre va être au repos. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toute cette pression interne dans l'arbre et où du coup, fonction des rythmes de lune et des moments, alors ça va être fonction des essences d'arbres et fonction des destinations des bouts de bois, c'est-à-dire il va y avoir des moments où les bois vont plutôt être destinés à la charpente, d'autres fois où ils vont être plutôt destinés à la menuiserie. Mais toujours est-il que nos anciens savaient le faire et c'était indéniable, c'était jamais remis en cause. C'était comme ça, c'était une évidence. Les bouts de bois étaient sciés au moment où c'était le plus opportun. De nos jours, les gens décident de couper une coupe. C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est vite fait. Mais du coup, surtout, moi, je considère que c'est mal fait. Je crois déjà en tout ça et en le savoir de nos anciens, mais je me rends compte d'un point de vue complètement empirique que les bouts de bois que j'ai entre les mains n'ont pas forcément le même comportement. Quand je vais les passer sur un banc de scie, par exemple, on dit qu'il y en a qui font vraiment la banane. Typiquement, des bois qui font la banane, c'est des bois qui étaient tout tendus, qui n'ont pas été sciés au bon moment. Quand on travaille le bois et qu'on réalise des ouvrages pour de la clientèle, les bois continuent à travailler derrière. Ils vont travailler toute leur vie, en fonction de l'hygrométrie, notamment extérieure. Le gage de garantie pour moi, c'est d'avoir des bois qui vont être stables. de manière à ce que mes clients soient satisfaits. C'est vraiment un happy, c'est vraiment pour moi aussi respecter les arbres, tout simplement. Et puis derrière, c'est honorer ceci, quoi.
Super intéressant aussi, cette démarche-là, qu'on ne retrouve pas forcément et qui, comme tu viens de le dire, vient des anciens. Donc, c'est aussi un respect finalement pour le savoir-faire ancestral du bois. Alors, dans ce podcast, il y a une question que j'appelle la question émotion. Alors, quel est le moment le plus heureux et le moment le plus difficile que tu as vécu jusqu'à maintenant dans cette aventure boisée?
Le premier qui me vient, c'est un moment heureux. C'est un enfant atteint d'autisme qui, sur une animation jeu, j'ai un jeu où on lance une boule qui passe dans un cerclage en ferraille et qui arrive sur des cloches. Ouais. Et où, du coup, c'est vraiment un geste de lancer sur une certaine trajectoire, et où cet enfant-là, alors je ne me rappelle plus de son prénom, a passé la première heure à juste taper dans la ferraille et à pas réussir à passer la porte. La deuxième heure, il commence à aller dans le cerclage qui tourne et il fait tourner la boule, mais qui va pas assez loin pour tourner les cloches. Et la troisième heure, il touche une cloche. Il y en a quatre. Ouais. Il touche juste une cloche et il se met debout, il hurle de contentement, quoi. Ça suscite vraiment de l'émotion. Et j'ai des parents derrière qui viennent me voir en me disant, bah écoutez, jamais notre enfant n'a été aussi patient sur un jeu. Donc bah là, lui, il s'est fait son petit monde, il a pas vu le temps passer. Et moi, bah ça, c'est parmi les plus beaux cadeaux que je puisse avoir. C'est-à-dire, je ne sais pas pour qui sont faits les jeux. J'en fais plein de manière à ce que chaque jeu puisse correspondre à une personne. Chacun a un caractère, un mode de fonctionnement différent. Donc, il faut aussi une diversité de jeux pour pouvoir répondre un petit peu aux besoins de tout le monde. En aspect négatif par rapport à ce métier, j'en ai quelques-uns. Je dirais que c'est essentiellement lié à des relations humaines. J'en parlais tout à l'heure, lié aux acceptations, notamment quand on arrive dans le coin et qu'on n'a pas de diplôme en menuiserie, où faut faire sa place, faut faire ses preuves, bon, ce qui est relativement juste, je dirais, en soi, mais qui a quand même suscité des remarques assez difficiles à recevoir.
Ouais. Voilà. On retrouve aussi dans d'autres épisodes, et je te parlais tout à l'heure de Stéphanie Maubé, une éleveuse de brebis dans les Presalus du Cotentin, qui m'avait fait part de la même difficulté. Donc ouais. Dernière question sur justement ton parcours d'artisan, qu'est-ce que tu préfères faire en tant qu'artisan du bois? Est-ce que c'est justement créer? Est-ce que c'est plutôt transmettre?
C'est pas une question facile parce que j'aime quand même pas mal de choses. J'adore découvrir des pièces de bois. C'est peut-être une des choses les plus importantes, mais je me suis rendu compte donc que la notion d'esthétisme était primordiale au niveau des jeux, que ça suscitait vraiment l'envie et l'enthousiasme. Et où, du coup, au niveau du travail du bois, il y a des moments un peu magiques comme ça, où on lâche complètement prise, on observe les bouts de bois, on laisse un peu l'outil aller où il veut par rapport à la densité du bois, et où, du coup, ça fait naître des choses, où des fois, j'ai l'impression que ça ne m'appartient pas. Ouais. Et où ça, c'est assez magique de pouvoir réaliser des choses sans forcément savoir à quoi ça va ressembler à la fin. Et de se rendre compte qu'en lâchant prise, on arrive à des choses qui sont vraiment belles et des fois aussi en termes de jeu pertinentes.
Alors on approche de la fin de notre conversation. Toi qui as osé franchir le pas, quel conseil donnerais-tu à une personne qui hésite à franchir ce pas ou à une personne en pleine reconversion professionnelle?
Je dirais que d'un point de vue général, ce qui est important, c'est de s'écouter. Si on ne veut pas tomber malade et qu'un jour notre corps nous dise qu'il en a marre, je pense que c'est vraiment important d'écouter ce qui est viscéral pour nous, se rendre le chemin aussi agréable, mais vraiment avoir cette tendance à aller chercher ce qui nous nourrit le plus, ce qui nous fait vraiment le plus vibrer. Et c'est vraiment aussi parler dans une société où je trouve qu'on le fait pas assez, mais c'est nos émotions. Écoutons nos émotions, quoi.
Alors, tradition de fin d'épisode, je te propose de répondre à une petite série de questions si d'aventure. Alors, si d'aventure tu devais choisir une essence de bois, quelle essence choisirais-tu?
Alors, j'ai bien mon idée parce qu'il y en a une que je préfère, mais j'ai pas envie de la dire. Tout simplement parce que je considère il y a l'aspect financier, notamment sur les bois, où on va dire que du chêne va coûter plus cher que de l'épicéa, que du frêne va coûter plus cher que du hêtre. Moi, je les aime tous. comme je panache les uns avec les autres, j'ai pas de préférence. Je les respecte tous autant qu'ils sont.
Alors, si d'aventure tu devais offrir un jeu en bois à une personnalité de ton choix, à qui l'offrirais-tu ?
Là, je pense notamment au milieu des EHPAD. On parle de perte de motricité, mais du coup, on peut accompagner et faire en sorte de ralentir tout ça. Donc, j'ai pas de nom et de personne définie particulièrement, mais je penserais plutôt à une personne dans une EHPAD qui prendrait plaisir avec un des jeux, et ce jeu, je l'aurais développé pour lui.
Et enfin, si d'aventure tu devais donner un titre à cet épisode du podcast, quel titre lui donnerais-tu ?
Alors François, je pense que c'est vraiment au niveau de l'enthousiasme, et je pense que l'apprentissage devrait systématiquement être un jeu.
Super. Pour conclure, j'invite les auditrices et les auditeurs du podcast à consulter le site internet Les Nouveaux Aventuriers pour découvrir le reportage photo de cette immersion dans l'atelier Bête à bois. Les liens sont dans la description de cet épisode. Merci infiniment Bruno pour cet échange. Vive le Jura et vive les jouets en bois.
Merci François.
À bientôt. Un grand merci d'avoir écouté cette aventure. Si vous aimez le podcast Les Nouveaux Aventuriers, vous pouvez l'aider en partageant les épisodes autour de vous. Vous pouvez également lui donner un maximum d'étoiles sur l'application Apple Podcast. Enfin, rendez-vous sur la page Instagram Les Nouveaux Aventuriers pour suivre l'itinérance de ce projet. À très vite pour de nouvelles aventures.